Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un épisode assez particulier parce que mon invité va me challenger pour que je sois également son invité. Vous allez comprendre, on y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Ayoub Sabir, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Merci beaucoup d'être avec moi dans la version homme de femme d'aujourd'hui. Comment ça va Ayoub?
En pleine forme, merci pour l'accueil.
Alors parlez de vous, parlez de ce qui fait l'homme que vous êtes aujourd'hui. Est-ce que c'est un exercice facile, vous pensez?
Alors je pense que c'est très difficile.
Pourquoi?
Parce que c'est assez personnel et tout le monde est animé par des choses en grande partie sur lesquelles il est lucide et d'autres moins lucides qu'il a du mal à dévoiler. Donc comme tout le monde, je suis heureux de contribuer, de dévoiler, mais ce n'est pas un exercice facile.
Alors on va y aller petit à petit, mais je pense que vous devez avoir vos cordes, d'autant plus que vous êtes un professionnel du contenu visuel. Est-ce que la com visuelle, et en l'occurrence aussi la communication visuelle humaine, ça reflète forcément ce qu'il y a à l'intérieur de soi?
Alors, ça reflète forcément, mais pas complètement. C'est-à-dire, c'est toujours un point de vue et toujours une perspective. Donc, quand je suis un expert du contenu visuel dans son aspect industriel, dans son aspect de productivité technologique. Et on fait beaucoup de photos. Et donc, la photo, comme tout le reste du contenu visuel, est toujours une perspective. Et donc, elle est forcément partielle.
Alors justement, Ayoub, quand vous dites que ce n'est pas toujours évident de parler de soi, parce qu'il y a ce qui est évident, visible, mais il y a aussi toute cette partie qui est un petit peu floue. Elle est floue pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas encore vraiment, parce qu'on se découvre au fur et à mesure du temps, ou parce qu'on n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'on veut et ce qu'on veut être?
Tout ça à la fois. J'ai pas la réponse, mais je me pose ce genre de questions.
On est là pour justement essayer de... On est là, pas pour avoir forcément des réponses, mais pour en trouver ensemble, peut-être.
Oui, volontiers, volontiers. Alors, je vous donne mon prisme.
Oui, OK.
Moi, je pense que notre horizon s'élargit en grandissant. Et donc, on découvre finalement ce qui nous anime à fur et à mesure qu'on fait les choses. Je ne pense pas que, contrairement à beaucoup de communication ambiante, je ne crois pas aux convictions, au destin tracé, à la vision prédestinée, etc. Je pense qu'on se construit et qu'on se co-construit avec les gens qu'on rencontre et notre horizon s'élargit en fonction qu'on avance dans la vie. Donc je pense que les choses se font à fur et à mesure et qu'on ne les connaît pas forcément dès le début.
Alors si on devait revenir à l'âge de 18 ans justement, votre horizon, il était où? Il se définissait selon quel contour?
Alors je peux vous donner un bref, mon parcours en bref, et ça va illustrer ce que je viens de dire. Moi, j'ai grandi dans une toute petite ville, Khmisset, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'au bac. Au bac, je suis parti à Rabat pour mes prépas pendant 2 ans. Donc, j'ai découvert une grande ville, j'ai croisé d'autres profils, d'autres expériences. Après les prépas, je suis parti en France, à Bordeaux, pour faire mes études. Donc, j'ai élargi encore un peu plus l'horizon. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai atterri à Paris après mes études pour mon travail et tout le reste où j'y suis depuis 15-16 ans maintenant. Et donc, ce que je dis aussi, c'est mon expérience personnelle. Elle n'est que personnelle, mais mon horizon s'est élargi à fur et à mesure, justement, de ces étapes de la vie.
Alors, j'ai déjà entendu des gens, mais corrigez-moi si je me trompe et si c'est votre cas aussi. Quand on grandit dans des petites villes, dans des petits environnements, dans des environnements plutôt restreints, on a du mal à pousser ses horizons et il y a presque une part de culpabilité en soi, culpabilisée par rapport aux autres qu'on a côtoyés et qui n'ont pas eu cette chance. Est-ce que c'est vrai?
Culpabilité, non. Après, on se pose la question, parce que quelle est la part de déterminisme et quelle est la part de...
Chance.
Du résultat, oui, de chance, d'effort personnel. Et la réalité entre les deux, c'est-à-dire, moi j'aime bien la citation de Sartre, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Et c'est pas parce qu'on est dans une né dans une petite ville, dans un environnement X ou Y, qu'on est obligé de le subir. On peut être né à New York ou à Hong Kong et vouloir aller vivre en Afrique et aider des gens qui sont dans une situation différente. Et donc, la réflexion peut se faire dans l'autre sens aussi. Hein.
Alors vous, justement, vous êtes allé en France, vous aviez envie d'aider quelqu'un en particulier ou un groupe de personnes en particulier ?
Non, moi j'étais animé par élargir l'horizon. C'est quelque chose qui m'a toujours drivé et découvrir des écosystèmes, des mondes différents. Donc je voulais aller en France pour grandir, pour découvrir, pour voyager. Le voyage, c'est ça, c'est s'agrandir en rencontrant des gens différents. Moi, c'est ce qui m'attire, c'est les gens différents.
C'est une éducation ou c'est un mindset personnel ? Vous êtes fait ainsi, vous avez été fabriqué comme ça ?
C'est les deux. C'est forcément une éducation. Les parents nous ont donné ça. Une logique de socle et d'étage, de construction d'horizons différents et pas de déterminisme, en fait. Essayer de se libérer de ces déterminismes le maximum possible, tout en les admettant, hein, parce qu'on peut pas casser nos contraintes.
Alors justement, pendant l'enfance, l'adolescence, est-ce que les horizons s'ouvraient déjà ou c'était que remisette ? C'est-à-dire, je m'explique, est-ce qu'il y avait aussi des voyages, des rencontres, des découvertes ou c'était plutôt uniquement subir l'environnement fermé d'une petite ville ?
Non, c'était vraiment remisette. Moi, j'ai grandi pleinement dans cette ville. Elle était plutôt agréable à cette époque où moi j'ai grandi. C'est-à-dire, il y avait un environnement particulier scolaire qui était plutôt de qualité. Les voyages avec les parents, ça élargissait un petit peu l'horizon. Mais la qualité de vie dans des petites villes comme ça, de mon point de vue, elle est bonne hein, pour ouvrir les yeux des enfants et leur permettre d'avoir un socle, parce que c'est une vie saine finalement dans des petites villes comme ça, pour construire un socle sain qui permet d'aller à la rencontre d'environnements un peu plus complexes, pas mal sains, hein, mais plus complexes à affronter après.
Alors, vous aviez eu un passage avec ma collègue Karim Al-Qadawi dans son podcast Job Story, où il était question justement de votre parcours professionnel. Dans version homme, c'est différent. On parle de l'homme 360. On a beaucoup parlé pro quand même. Et je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression, depuis que j'ai commencé cette expérience de version homme, ça fait 2 ans que je fais femme d'aujourd'hui. Et avec les femmes, on arrive très facilement à transcender la façade professionnelle et rentrer dans l'intimité. Et avec les hommes, depuis que j'ai commencé cette expérience, c'est plus compliqué. J'ai l'impression qu'il y a une certaine pudeur de ma part de ne pas arriver facilement à aller dans cette intimité. Mais il y a aussi une forme de retenue des hommes à toujours me ramener vers le professionnel. Est-ce que vous confirmez ce ressenti que j'ai?
Oui, je le confirme sur les deux points. Je sens bien... Moi, j'ai écouté beaucoup de vos émissions avec les femmes et avec les hommes. Je vois bien que vous êtes... Et je pense que c'est, si je peux me permettre, Yasmine, c'est lié aussi par rapport à ce que vous êtes. C'est plus facile pour vous de tirer les femmes à exprimer, à formuler, à mettre des mots sur des choses que vous avez peut-être, vous, plus
partagé.
De... Oui, voilà.
Ressenti, connu à travers d'autres femmes, enfin d'autres expériences personnelles, absolument.
Exactement. Après, femmes d'aujourd'hui, je pense que vous en avez. Moi, j'en entends parler, j'en écoute depuis très longtemps. La version homme est plus
récente.
Plus récente aussi.
Donc, on peut glisser sur le perso ou ça vous dérange en tant qu'homme?
Non, pas du tout.
Pas du tout. Alors, s'il y avait une expérience personnelle qui vous a construite, qui a construit l'identité de l'homme que vous êtes aujourd'hui, ça serait laquelle? Si on devait en retenir une d'abord pour commencer, pour pouvoir aussi me mettre en confiance avec vous.
Alors, au niveau très, très personnel, pour jouer le jeu, on a eu un moment très, très difficile avec en famille. On a eu un accident très, très grave en famille. Et j'ai vu le mur tomber, c'est-à-dire j'ai vu le truc, on le formule souvent, hein, on parle quand on est en train de dire, tout peut s'arrêter d'un coup. Moi je l'ai vu, je l'ai matérialisé. Et voilà, ça a débloqué pas mal de choses, ça a mis du temps à émerger. Mais j'ai pris conscience de manière très matérielle, hein, encore une fois, je l'ai matérialisé, que tout peut s'arrêter. Donc il faut, c'est un président français qui dit, il n'y a pas, c'est pas grave d'échouer, mais ce qui est grave, c'est de ne pas tenter. Et donc j'aime bien cette logique, je tente des choses depuis cette expérience, en fait.
Alors, justement, ça doit être extrêmement... extrêmement déroutant aussi de savoir, quand on est un entrepreneur comme vous, lancé dans le business, etc., que tout peut s'arrêter d'un coup. Est-ce qu'à ce moment-là, on se tourne aussi vers le perso? On s'intéresse encore plus, on investit plus dans le personnel et pas uniquement dans une carrière?
Pas forcément. Encore. Je partage ma propre expérience des choses. En fait, moi, la peur que j'ai, c'est que qu'il y ait des effets secondaires des difficultés, des risques pro sur le perso. Et donc, je partage, hein, parce qu'il faut embarquer son entourage, on peut pas être entrepreneur, lancer des choses en étant enfermé. Mais il faut veiller à ne pas impacter, avec la notion d'incertitude qu'on vit, notre entourage. Et il ne faut pas non plus s'y réfugier. Il ne faut pas se dire, entrepreneur, c'est très difficile, je suis très bien en famille, je vais m'enfermer dedans. Non, il faut affronter l'incertitude, essayer d'y naviguer le plus possible et préserver les proches. Je dis des choses un peu contradictoires, mais voilà, il faut équilibrer ces contradictions-là.
Le mindset d'entrepreneur, justement, on dit que c'est très difficile, mais qu'est-ce qui fait qu'on y reste et qu'est-ce qui fait que vous y restez, vous, Ayoub?
Moi, j'y reste parce que j'ai pas atteint le point de satisfaction personnelle. On a ouvert la discussion en disant qu'est-ce qui nous anime finalement en tant qu'être humain. Chacun de nous a des moteurs. On peut les regrouper en disant que chacun trouve la satisfaction personnelle dans la réalisation de certaines choses dans sa vie. Moi, je trouve la satisfaction dans la concrétisation de la transformation de choses, d'organisation par la technologie. J'y ai trouvé un vrai plaisir depuis 10-15 ans que je fais ça maintenant. Et je suis en train de construire quelque chose dont je n'ai pas encore vu l'impact de manière aussi satisfaisante que je le voudrais. Et donc malgré l'incertitude, je vois que ça avance et donc je n'arrêterai pas tant que je n'ai pas atteint un point de satisfaction personnelle. Voilà.
Alors, pour faire le lien avec l'expérience que vous avez vécue, celle que tout peut s'arrêter. Ce qui vous fait peur le plus, c'est que quand vous dites tout peut s'arrêter, est-ce que c'est s'arrêter avant d'avoir concrétisé toutes vos attentes, tous vos rêves professionnels, ou bien tout s'arrêter tout court?
Non, en fait, tout peut s'arrêter tout court, et ce n'est pas une peur, hein. Je l'accepte bien volontiers. On est né pour mourir. Et les philosophes disent que si on n'avait pas cette deadline, on ne serait pas humain. Donc il faut l'accepter. On va tous y passer et ça peut venir très vite de n'importe où et de nulle part. Et en fait, c'est ce qui me pousse, et je pense qu'il y en a beaucoup qui raisonnent comme ça, à tenter des choses. Et donc si on se dit ça va s'arrêter demain, dans une semaine, dans un an, si j'ai envie de faire quelque chose, il faut que je le tente.
Mais ces choses-là dont vous parlez, c'est plutôt des choses professionnelles? C'est surtout ce domaine-là qui est le plus concerné?
Non, ça s'applique au personnel aussi. On peut le projeter sur ses projets familiaux, ses projets personnels, amicaux. Ça s'y prête bien, hein, parce que les relations qu'on a avec les gens, on peut raisonner comme ça aussi. Si tout peut s'arrêter, quelle est la meilleure personne avec laquelle on passe du temps? C'est un raisonnement assez compliqué aussi.
Absolument. Ça a changé votre façon de vivre tout court, de profiter plus de la vie, de profiter encore plus de votre famille. Est-ce que ça a changé concrètement des relations?
En fait, ce qui se passe, c'est que c'est des choses qui mettent du temps à émerger. Et quand on est dans le feu de l'action, on ne le ressent pas forcément. Et derrière, il y a des comportements qui changent. Et plus le temps passe, plus on prend conscience. Moi, je pense qu'on a le même âge, je suis à la quarantaine, donc c'est un virage important. Et donc, on prend conscience de choses, de changements, etc., et qui sont issus de ces événements. Et voilà, mais ce n'est pas un processus net, ce n'est pas un virage net, c'est un virage doux.
Pour certains, ça peut être une prise de conscience brutale. Pour vous, c'est différent.
Honnêtement, je n'y crois pas. La certitude en ces matières-là, c'est personnel, mais j'y crois moyennement.
Mais c'est bien que ce soit doux quand même. Ça prend soin de vous, en fait. Votre prise de conscience, elle est empathique vis-à-vis de vous.
Oui, c'est comme ça qu'on peut la digérer. Et alors, là où c'est violent, c'est que quand on subit un choc, quand on ne peut pas absorber, là, c'est là où c'est compliqué. Hein. Je pense qu'on l'a tous connu autour de nous, c'est plus violent. Hein.
Absolument. Aujourd'hui, l'homme que vous êtes, la version de l'homme que vous incarnez, est-ce qu'elle vous convient ?
Elle est en construction. Donc, j'aimerais être plus moi-même dans certains aspects, mais j'y travaille, je pense que je serai en construction tout le temps.
Alors quand vous dites « j'aimerais bien être plus moi-même », vous-même, c'est qui ?
Sur certaines valeurs auxquelles j'y crois, pouvoir les porter de manière un peu plus forte, pouvoir assumer vis-à-vis de situations difficiles des convictions fortes. Et un, je n'ai pas toujours les moyens de les affirmer. Et deux, je n'ai pas toujours l'intelligence ou la bonne manière de les amener. C'est dans ce sens-là que je voulais te dire.
Et en général, ça vous l'observez plutôt dans une sphère privée ou plutôt professionnelle ?
Je l'observe beaucoup dans le professionnel parce que depuis que j'ai lancé l'UNI, je recrute beaucoup de jeunes. J'ai recruté beaucoup de jeunes. Et les interactions que j'ai avec eux sont très enrichissantes. Et dans le personnel aussi, en famille, avec ma petite fille, j'équilibre et j'apprends à amener les choses de la bonne manière, en quoi je crois à l'amener de la bonne manière.
Alors, ce qui est beau aussi avec vous, c'est qu'il y a, enfin, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience constante, en fait, de qui vous êtes, de ce que vous faites et de vers quoi vous voulez aller. C'est-à-dire, vous n'êtes pas là, tout simplement, mais vous avez un objectif. Chaque chose essaie de construire cet objectif. L'objectif de vie, en fait. Le chemin de vie. Pas, quand je dis objectif, je ne parle pas de tâches professionnelles ou je ne parle pas de ça, mais voilà, d'aller chercher ce soi intérieur.
Exactement. Chercher ce qui nous anime et essayer de s'en approcher le plus possible. C'est une quête constante. Alors, elle a plusieurs aspects religieux, spirituels, philosophiques. Tout le monde a écrit dessus et personne n'a la réponse. Et c'est ce qui fait qu'on est en quête, on est en construction tout le temps. Et vous parliez tout à l'heure de la différence homme-femme. On a des étapes de la vie différentes entre les hommes et les femmes où on est confronté à ces choix. Au niveau professionnel, au niveau personnel, il y a des moments où la vie oblige les femmes et d'autres moments où la vie oblige les hommes à prendre un choix. Alors conscient, des fois inconscient, je pense que c'est le pire. Mais voilà, je pense que c'est humain, c'est le cœur de la vie.
Alors, cette quête, justement, ce cheminement, est-ce que vous avez toujours été conscient de le suivre ou bien c'est cet accident qui a déclenché cette prise de conscience ?
Alors, je m'interrogeais toujours, je regardais autour de moi, mais j'arrive pas toujours à le formuler, à le théoriser. Et donc, c'est plus instinctif qu'une conscience. Et ça se construit à fur et à mesure. C'est-à-dire, je prends conscience des choses une fois peut-être que je les ai vécues, que je les ai traversées. Mais non, pour répondre très directement, aucune lucidité sur le moment présent.
Et sur le moment où tout a commencé.
Oui, un peu plus. Parce que c'est un moment, c'est un stop et on recommence. Donc là, c'est plus net.
Ayoub Saber, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de la version homme de femme d'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Yasmine. Moi, j'ai une question pour vous, pour toi. On s'est tutoyé.
Oui, bien sûr. Dis-moi. Oui.
Alors, moi, j'ai écouté un de tes posts sur LinkedIn où tu expliquais pourquoi tu as animé pendant longtemps et pourquoi tu as posé tellement de questions aux femmes sur leur parcours personnel, sur ce qui les animait. Alors, moi, j'ai envie de te poser la question, pourquoi la version homme, du coup ? Qu'est-ce qui t'anime, toi, à aller chercher la quête, ce qui anime les uns et les autres dans la version homme ?
Alors, il y a deux niveaux de réponse. Premier niveau, j'ai reçu des commentaires, même s'ils sont gentils, enfin, ce n'est pas des commentaires négatifs, mais au contraire, c'est « Ah, tu donnes trop la parole à la femme, on n'entend que la femme, nous, on n'a pas d'espace pour nous ». Et je me suis dit, si ces commentaires sont là, c'est que cette partie de la population, les hommes, ont eux aussi envie de s'exprimer. Et s'ils écoutent ce podcast féminin, que moi j'avais pensé au départ féminin, mais qui finalement est écouté par beaucoup d'hommes, c'est que finalement, ils trouvent aussi un sens à écouter des gens s'exprimer, des humains, en l'occurrence des humaines, s'exprimer sur quelque chose qui est au-delà du visible, du professionnel, de ces aspects que l'on n'a pas de mal à discuter, mais de parler de soi, de profondément, nous, humains, qui construisaient notre société, notamment, en l'occurrence, la société marocaine. Et je me suis dit, je vais jouer le jeu. J'ai joué le jeu un petit peu l'année dernière, mais je vais être honnête, il y avait moins de pression parce que ce n'était pas une quotidienne. Et cette année, bien sûr, avec toute l'équipe, etc., qui décide de ce genre de choses, du lundi au vendredi, à la place de femmes d'aujourd'hui. Et en démarrant l'expérience, je me suis rendu compte au fur et à mesure des challenges. Je ne m'attendais pas à ce genre de challenge, à vrai dire, à certaines difficultés à faire parler les hommes. Avoir un OK avant de démarrer l'entretien, ça, ce n'est pas compliqué. Mais au fur et à mesure de l'entretien, je découvre, on rentre rarement dans l'intimité, on rentre rarement, il y a une forme de pudeur dans les relations et voilà. Donc, je ne sais pas si...
Ça fait une émission et un podcast totalement différent et nous les hommes, on est très contents qu'il y ait une version homme.
Eh ben, merci beaucoup. Et avec les femmes, en fait, j'ai ce canal de communication invisible, donc je suis en train de découvrir et voir comment je peux établir ce canal de communication. Voilà.
Bon, moi c'est super, moi j'ai passé un bon moment.
Merci pour ta bienveillance.
J'ai répondu correctement.
Écoute, il y a pas de réponse. Comme on dit, il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. On a parlé de toi, c'est toi avant tout. Et ce que tu as apporté, ta générosité, ta transparence, ton honnêteté, voilà, comme tu le sentais.
Merci.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ma version homme de femme
d'aujourd'hui.
Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance, dans ce rendez-vous masculin sur Média, et bien sûr en avant-première sur Média Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Média Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.